Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette première épisode de Steroids, le podcast. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision s'impose. Qu'est-ce que c'est Steroids ? Eh bien, en fait, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous le savez déjà, c'est une émission qui me tient un peu à cœur, que j'ai créée il y a maintenant presque un an, au mois de mai dernier, et qu'en fait, c'est une petite émission vidéo, en général 10-15 minutes, qui analyse le cinéma d'action à travers un prisme particulier, un film en question. Alors, on a déjà fait quelques épisodes, vous pouvez aller jeter un œil, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez jeter un œil. Pour ceux qui nous suivent en fait, sur le flux RSS et qui voient débarquer ce nouveau podcast, en fait, c'est une manière de vous dire que voilà, pour patienter entre deux gros épisodes, deux grosses émissions en fait, de Steroids qui nous prennent pas mal de temps à faire, j'invite des copains pour parler de cinéma d'action parce que c'est le cinéma qu'on aime. Mais ce n'est absolument pas du tout une manière en fait d'annuler Capture Mag le podcast, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait un, depuis le Michael Bay en mai dernier aussi. Et ça ne veut pas dire en fait qu'on ne va pas recommencer. On est d'ailleurs sur le coup. Donc encore un petit peu de patience. On espère revenir dans les prochaines semaines qui viennent. Voilà. Si en attendant, en fait, vous ne nous connaissez que par ça, il faut savoir que Capture Mag, c'est aussi un site qui existe, capturemag.net, depuis 2012. Et que sur ce site, en gros, il y a pas mal d'articles. On rejoint tout ce qu'on a toujours aimé faire, nous, en tant que journalistes de cinéma. Donc mes amis Rafik Djoumi, Yannick Dahan, Arnaud Bordas, Julien Dupuis évidemment, et d'autres encore, et que en gros, Steroids fait partie de cette logique là. Alors Steroids, c'est comme je vous le disais, une émission sur YouTube. C'est une émission que j'ai le plaisir de faire avec mes amis qui me donnent beaucoup de leur temps, qui s'appellent Cédric Fontana, Sébastien Le Gallo, Alain Mercier ou Manuel Garciapou, qui sont des monteurs, mais aussi il y a les mixeurs comme Rémi, Thomas Capot, Dorian Bobin, et surtout il y a la voix de Steroids qui est Baptiste Brillac, que vous avez un petit peu entendu en début d'intro. Et je les remercie tous en fait pour leur implication. Et pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui en fait j'ai le plaisir en fait d'être avec mon ami Yannick Dahan pour cette première, et nous allons parler d'un film un peu particulier. Salut Yann.
Salut Steph.
Alors l'heure est grave. Parce qu'on va parler
pas d'un
film
ça, en fait.
Si, mais parce qu'on va parler d'un film que normalement toi et moi on devrait kiffer, parce qu'en fait il y a tout pour nous faire kiffer, et on kiffe, mais pas du tout. Mais non seulement on kiffe pas du tout, mais on se sent trahi, et presque j'ai envie de dire qu'on nous est craché à la gueule, quoi.
Alors pour préciser ce que tu viens de dire, puisque nous évoquons Fast and Furious Hobbs and Shaw, c'est pas un film qu'on voudrait voir, c'est un film qu'on aimerait croire qu'on voudrait le voir. Tu vois ce que je veux dire, c'est
en tout cas sur la bande annonce, moi qui déteste les Fast and Furious, contrairement à toi, j'étais à fond la caisse.
Et je suis un blaireau qui se fait encore avoir de temps en temps par les bandes annonces, mais je pense que c'est juste un vieux fantasme dont on n'arrive pas à se dégager. On est tellement en panne de ces films qui nous ont fait marrer pendant des années qu'on nous montre deux chauves bourrins qui sont en concours de quéquettes avec la promesse de baston non-stop. On se dit, ah ben non, mais je veux y croire, mais en réalité, il suffit de regarder ce que c'est, il suffit de regarder ce qui est passé avant, il suffit de regarder le réel, il suffit de regarder les acteurs. On devrait déjà savoir que c'est un mensonge et que automatiquement on va être déçu. C'est une évidence en réalité. Donc après, on peut questionner notre psyché, pourquoi on a vraiment envie de voir des gros débiles se foutre sur la gueule. Ça, c'est un autre problème. Mais en réalité, on savait d'avance que ça allait être pourri, même si j'aurais je voulais y croire. Hein. Moi, je voulais y croire. Et, et la bande-annonce me faisait marrer parce que la scène qui, où il y en a un qui descend le long d'un immeuble et l'autre où il fait genre wanker comme ça en le regardant. Tu voyais ça, deux images dans la bande-annonce, tu te disais, ça va être bien, quoi. Mais
c'est un leurre. Ils se font des checks avec les, entre oui, Samoan et tout ça.
Mais c'était un leurre, oui. Ouais. Alors l'autre qui crie en savant, tu dis, ils sont partis en sucette. Mais tout le problème du truc, en réalité, c'est que même si on sait que ça va être nul ou quoi que ce soit, quand on voit ça, d'un côté, on peut rêver de ce qui nous a fait fantasmer de bourrin qui se foutent sur la gueule, vraiment, donc de l'actionneur bas du front, mais qui, justement, s'amuse de ce côté bas du front et on fait des caisses, c'est marrant. Et de l'autre côté, quand t'as à avoir un plan de The Rock qui fait son Samoa en hurlant, et tu te dis, bon, ben là, ils sont partis en sucette totale. Donc, tu t'attends au moins un vrai délire, c'est-à-dire le truc qui assume véritablement sa connerie et qui en joue. Le problème, c'est qu'il ne remplit aucune des cases de ces deux aspects. Et encore une fois, là, on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui, dans le cinéma d'aujourd'hui, où c'est, comme ils disent les Ricains, style over substance, ce n'est que de la pose. Et c'est de la pose conceptuelle, c'est de la pose narrative, c'est de la pose de personnages et d'acteurs. Et ça n'est jamais, jamais traité. Moi, je veux bien qu'on me dise, hey, tu vas avoir deux gros bourrins qui vont latter plein de gens. Qu'est-ce qu'ils font dans le film? Je vois pas un bras cassé. Je vois pas un mec qu'on lui défonce le pif. Je vois rien. Je vois des mecs qui donnent des petits coups de tatane. Il se passe rien. Et il y a rien derrière. Et tout est au même niveau. Et qu'en fait, on dit action, mais action, c'est quoi? Action, c'est faire voler un camion dans le ciel et faire tomber un immeuble? Non. C'est pas ça.
Oui, mais alors attends, moi j'ai une question pour toi, parce qu'en fait, moi, j'aimerais qu'on recontextualise un peu le film.
Mais j'ai pas, enfin.
Alors attends, mais je vais te poser ces questions, parce que moi, en fait, le truc avec ce film.
M'énerve tout de suite pour rien.
Ouais. Non, mais le truc qui m'interpelle sur ce film-là, c'est que moi, par exemple, je suis pas du tout fan des Fast and Furious, mais les scènes d'action dont tu parles, elles sont dans les Fast and Furious. Ouais. Donc, et pourquoi t'as pas de problème avec certains Fast and Furious et pourquoi t'as un problème avec celui-là? Parce que moi, tu vois, par exemple, en fait, le truc, c'est que je peux intellectualiser, on va dire, le film entre guillemets. Le fait est que j'ai pas de plaisir en fait à ce film-là, y compris alors quand ils font des vannes, ce qui est censé être un truc que je suis censé aimer, quand ils font des scènes d'action, ce que je suis censé aimer, quand le retour en fait au bled pour le personnage de Dwayne Johnson, c'est ses racines à lui, en fait il en joue, c'est un film qui devrait avoir du cœur, ils essayent d'avoir tout ça,
oui,
et rien ne fonctionne jamais.
Tu m'avais sous-entendu cette question et je suis très emmerdé parce que je me la pose aussi et que je me dis, bon, bah, après tout, il y a des gros bourrins qui sortent des blagues débiles et qui se foutent sur la gueule et qui cassent tout. Et tu as une espèce de jeu sur ce qu'ils représentent et sur ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on est quand même dans une mise en abîme dans ce genre de film-là, qui est une façon de dire, regardez, on fait le gros truc bourrin que vous voulez voir. Bon. Mais juste, je me demande, hein, c'est vraiment, je réfléchis à vote, mais je réfléchis. En comparaison, par exemple, au Wolf Warrior 2, dont on parlera sur un autre stéroïde, mais qu'est-ce qui fait qu'en Wolf Warrior 2, aussi nul soit-il à tout niveau, ça me file la banane et je me marre en regardant le film? Qu'est-ce qui fait que je regarde Fast and Furious 5, parce que c'est mon modèle, c'est ma pierre angulaire de la saga Fast and Furious. Qu'est-ce qui fait que Fast and Furious 5, bon, alors peut-être parce que c'est la première fois qu'arrive aussi The Rock, que je te la vois, c'est cool, il faut arriver un gros bourrin dedans. C'est que dans ces deux films, d'abord, c'est réellement bourrin. C'est-à-dire que ce que j'attends d'un The Rock dont on va huiler les muscles et qu'on fait arriver avec une caméra qui le suit en descendant de trucs, et tu sais que t'as l'impression qu'il sort du club de gym et qu'il sort des phrases badass sur phrases badass, tu te dis, il est à fond dans son truc. Qu'est-ce qui nous fait marrer chez Steven? C'est qu'il est persuadé qu'il est cool quand il fait son truc. C'est qu'il y croit. Comment il s'appelle? Woojin. Il fait n'importe quoi dans Wolf Warrior 2. Mais il y croit. Moi, quand je regarde Hobbs & Shaw, j'ai deux mecs où j'ai l'impression qu'on a, tu sais, coché toutes les cases de « il faut que tu dises ça, il faut que... » Et que, mais c'est d'un cynisme absolu. C'est-à-dire que personne n'y croit. C'est peut-être ça la différence. Tu vois, quand je regarde Fast & Furious 5, l'arrivée de The Rock, je la trouve bondante. Le côté débile de dire, bon, bah, on va rentrer dans le commissariat, on va tout péter, on va y aller. Et le simple fait qu'ils y vont et que la scène, qu'est-ce que c'est? C'est justement pas de la finesse. C'est une espèce de. Il y a tout qui se casse sur l'autoroute.
Oui, après, on peut pas dire qu'il y a de la finesse dans Hobbs & Shaw non plus.
Non, mais il y a un vrai côté. Oui, mais il y a un vrai côté bourrin, initié par les personnages et dans lequel il y a une jouissance à incarner ce personnage. C'est-à-dire que tu as l'impression que moi, je vois The Rock dans Fast and Furious 5, j'ai l'impression que The Rock, il kiffe vraiment de faire je fais le gros badass vénère. Et que quand je vois ce truc-là, on est passé dans un autre monde. Attention, parce que c'est même un autre monde, même depuis Fast and Furious 5.
C'est censé être le même perso. Hein.
Oui, mais ça, c'est notre monde idéologique, c'est quand même radicalisé depuis Fast and Furious 5. Donc là, on est quand même passé dans de l'inclusif à tout niveau. Quand il fait Hobbs dans Fast and Furious 5, c'est un succès d'année moderne, si tu veux, d'un Schwarzenegger, mais c'est rien d'autre. On fait venir Schwarzenegger, il roule des mécaniques, il tape des mecs, il casse des murs, il traverse des murs, et il fait ce qu'on attend qu'il fasse. Là, on te dit, t'as Jason Statham, t'as The Rock, et un an, il a sa petite sœur, il aime bien sa petite sœur, et l'autre, il a sa petite fille. Je crois que j'ai la pire scène censée être émouvante de l'histoire du cinéma dans Hobbs & Shaw. J'adore ce moment, on lui dit, genre, on est tout seul dans ma famille, on est que tous les deux, et l'autre, il la regarde, il fait, bah, tu sais, il y a des trucs qui se passent dans la vie, et puis voilà quoi, faut passer quoi. Et t'es là, c'est ça votre truc. Tu te rappelles même pas dans le café au début. Non mais je te dis, pour moi ça symbolise tout. Et donc on est en train de te dire non mais en fait on est en train de te dire vous allez voir un film de bourrin, mais en fait ils sont pas bourrins véritablement. Tu vois, ils ont dû. C'est-à-dire qu'on te dit le contraire de ce que voudrait être la promesse. La promesse, on va buter plein de mecs. On n'en bute pas, on voit rien, il y a que dalle, il y a pas d'impact. Toi qui as fait le magazine Impact, tu devrais savoir qu'on aime le cinéma d'action parce que c'est pas l'action qui nous plaît, c'est l'impact de l'action. En mise en scène, en chorégraphie, en tout. Et ça y est pas, il y a plus rien.
Après, ce qu'il faut préciser sur un truc comme Hobbs & Shaw, c'est que c'est censé, contrairement aux autres Fast and Furious, tu vois, qui s'inscrivaient dans des films de casse de bagnole, de trucs de machin, ouais, etc., là, c'est censé être un buddy movie. Ouais. Et en fait, le truc, c'est l'idée du buddy movie, elle vient d'où ? Elle vient du fait qu'ils se sont rendus compte, en tout cas, je sais pas, ils ont dû faire des graphes avec des marketeurs pour dire « Ah, mais attendez, il y a les gens qui aiment bien la relation entre Dwayne Johnson et Jason Statham. Les deux personnages d'Hobbs & Shaw, on peut en faire un spin-off. »
Ils sont déjà beaucoup plus cyniques que ça. Tu sais ce que c'est les véritables raisons qui amènent à tout ça ? C'est un noyautage de la franchise de l'intérieur par The Rock. C'est complètement ça. Le mec, il a fait des seconds rôles dans des gros blockbusters. On s'est rendu compte que tous les films dans lesquels il apparaissait cartonnés au box-office, qui en faisait un des acteurs les plus rentables, même quand il n'était pas tête d'affiche, il s'est frité avec Vin Diesel, qu'il a traité ouvertement de charlot dans les médias. Et il était déjà en train de noyauter le truc pour dire... Faites-moi, je vais vous amener votre franchise vers un autre level, quoi. C'est
d'accord,
ça qui s'est
mais passé. Le truc, en tout cas, c'est que bah, il est crédité, en tout cas, à l'époque de Fast and Furious 5, pour avoir relancé la franchise. Ouais. En tout cas, peut-être d'un intérêt presque artistique, quoi, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut utiliser pour Fast and Furious. Mais le truc, en fait, c'est que c'est quoi un buddy movie ? C'est un buddy movie dans ce film-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc où, alors déjà, pour moi, c'est un peu bas du front, si tu veux. Pour moi, il me semblait qu'ils étaient copains à la fin de Fast and Furious 8, tu vois. Et donc, c'est censé se passer après. Et là, ils sont plus copains du tout. Donc, déjà, je me dis, attends, il y a un truc que je comprends plus. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, on te les présente dès le début comme finalement des jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, bah,
ils sont pareils.
Physiquement, c'est deux gros baraquets chauves. Il y en a un qui est américain, enfin américain, voilà, et l'autre qui est
anglais.
Mais
c'est la seule différence qu'ils ont réussi à trouver au final.
Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, ils te les montrent en train de faire exactement les mêmes choses. Or, le principe d'un buddy movie,
c'est qu'ils soient différents.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à l'époque, en tout cas, un blanc, un noir, comment t'appelles ça, un mec qui est coincé, un mec qui est un crasseux, etc., etc. Donc en fait, tu te retrouvais avec, t'as je sais pas combien de films qui ont été faits sur cette formule-là. Voilà.
Alors ça, t'as complètement raison sur ça, c'est toute la logique du buddy movie à niquer, mais c'est presque au-delà de ça, c'est-à-dire que dès la première scène, on te dit, on va voir un film de bourrin, on les voit faire exactement la même chose, okay, bon, ils vont aller taper un mec, et puis alors même, excuse-moi, mais t'as The Rock, et ce que tu lui fais faire, c'est tenir une petite aiguille de tatouage pour menacer un Chinois en faisant rigoler sa copine. Enfin, je sais pas, tu te dis, t'as The Rock, tu veux faire un film de bourrin, tu lui fais détruire la moitié du club. Bon, déjà, t'es pas cohérent dans le truc. Et puis derrière, en fait...
Mais c'est ce qu'il fait. Hein. Oui. C'est ça le problème aussi, c'est qu'en fait, il défonce 15 mecs avant. Le problème, c'est que les scènes, elles sont nazes. Et ouais, en fait, j'ai une autre théorie, c'est-à-dire que même là-dessus, le truc, en fait, avec ce truc-là, c'est que même, par exemple, quand je disais voilà, la différence entre les deux personnages, même un film... Moi j'aime bien, hein, je pense que t'aimes bien aussi, mais qui est quand même bas du front, déjà à l'époque dans les buddy movies, tu vois. Enfin, tu faisais la distinction entre L'Arme fatale et ce film-là, on va dire, c'est Tango et Cash, tu vois. Tango et Cash, ils avaient compris que Kurt Russell c'était le pouilleux,
et que Stallone c'était le mec propre avec les lunettes. Non, tout ça, etc.
J'entends, ils avaient essayé.
Et le truc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que donc le bourrinisme du film existe, moi je trouve, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que ça fonctionne pas parce qu'en fait, les mecs cumulent les formules sur formules sur formules. L'humour.
Tout est horriblement cynique. Ils y croient pas, mais c'est pire que ça.
Et moi, il te cale un truc en fait au milieu qui est carrément, mais pour moi, qui fait baisser drastiquement le QI du film. C'est le personnage de Idris Elba.
Ah oui.
Qui en fait, en gros, ils te font venir un G.I. Joe au milieu du truc. Quoi.
Oui, mais regarde, le film est une dénature totalement son concept. Alors, la promesse est une pause. Le personnage est une pause. Le style sur la substance. La promesse, elle est niquée d'entrée dès la première scène. La première scène, c'est pas... La première scène, c'est la note d'intention du film. David Leitch, il te dit, en fait, je vous ai vendu Jason Statham et The Rock, mais en fait, ce Fast and Furious est la version non assumée d'un film dont les héros sont la diversité. Le personnage le plus badass du film, c'est la sœur de Jason Statham. Tu regardes tout le film, c'est elle qui a les moves les plus badass, c'est elle qui a les phrases les plus badass, c'est elle qui envoie chier les mecs, et à certains moments même, c'est un des rares moments où je me disais, elle est cool la meuf, tu vois. Quand The Rock, il vient la chercher pour genre, je t'ai trouvé, et qu'elle le regarde avec sa gueule cynique, sa réplique, et puis qu'elle lui rentre dans l'art, en fait, ce qui est mentigal, c'est elle. Et à côté, on te...
Mais ça, pourquoi pas.
Et à côté, vraiment, pourquoi pas. Comme à côté... clairement, Idris Elba, alors c'est le méchant, mais il faut qu'il soit, il faut qu'on dise que c'est le Black Superman, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise que c'est le Black Superman. Mais en fait, ce film-là, ça aurait dû être Fast and Furious, le Black et la meuf, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Alors, ce que j'ai du mal, moi, à comprendre dans la tête de ces mecs-là, c'est qu'en fait, ils poussent ce cinéma vers là, de plus en plus, puisque maintenant, on va te mettre des quotas de femmes qui réalisent.
Je pense que c'est cyclique, tout ça.
Bien sûr que c'est cyclique, mais je veux dire, on s'en fout que ce soit cyclique ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est d'un côté, ils te hurlent partout, aux Oscars, partout, qu'il faut faire de la diversité, qu'il faut qu'il y ait des femmes réalisatrices, qu'il faut que les acteurs noirs soient aux Oscars. Ils ont encore fait le coup cette année avec Oscar So White. On te pousse tout ça. Les mecs font des films avec des nains, ils font tout ça. Dans les films, ils te rajoutent forcément la diversité, ils te rajoutent forcément la femme. Ils vont tous te dire, regardez, ils sont tous super balèzes, badass, tout ça. Clac. Et en même temps, la promesse, c'est quoi? C'est un film des années 80. Donc, ils te font la promesse d'un film des années 80 qu'ils ne veulent pas fondamentalement faire derrière. Donc, c'est des films qui sont schizophréniques complets.
En fait, qu'ils ont peur de faire.
Oui, qu'ils ont peur de faire. Mais bon. Donc, quand tu me dis pourquoi il y a tout qui devrait nous plaire, mais parce que c'est la promesse qui nous plaît. Moi, je vais dans le film et j'attends à ce que Jason Statham et The Rock se foutent sur la gueule. Je sais qu'ils vont devenir copains à la fin, comme tu dis, c'est un buddy movie, mais j'espère qu'ils vont vraiment se foutre sur la gueule. Et ça ne se passe jamais, c'est bidon, c'est fake. C'est fake. Tout de suite, tu les vois gentils avec leur petite famille, ils se font des blagues de maternelle à la gueule. La pire scène, ça doit être la scène du couloir, là où il y en a un qui tape le gros et l'autre avec des blagues. Tout est tellement long, c'est tellement pas dynamique en montage, c'est tellement pas pensé en mise en scène que le gag, tu le vois venir à 3 km à la ronde et il marche pas et il est nul.
Et il y a ce truc aussi à un moment donné dans l'humour. Alors bon, après, c'est compliqué, hein, on va dire ça, parce que si on parle de David Leitch, tu vois, David Leitch, on avait déjà une conscience que effectivement l'humour il savait pas trop faire ça avec Deadpool 2 parce que c'est un film pour moi c'est pareil, enfin Deadpool 2 c'est encore la version gamin de 8 ans du premier quoi qui était déjà pas super
moi j'aimais bien le premier Deadpool
déjà c'est pas lui et bon,
après moi j'ai un faible pour Ryan Reynolds, je suis parti des rares gens mais ça, qui ont un faible pour Ryan Reynolds donc il me fait rire moi, donc,
incompréhensible
mais je sais mais moi il me fait rire
mais pour moi il fait partie du problème actuel voilà que tu soulignes d'ailleurs en plus
règne du ricanement. Non, mais ça, c'est sûr.
C'est pas seulement le règne du ricanement, c'est que c'est l'histoire d'un mec, en fait, qui est badass et subversif, en fait, dans un monde qui ne l'est pas. Donc, en fait, il ne l'est pas plus que les autres, il est à peine plus, en fait, si tu veux. C'est ça, le truc, c'est qu'il va pas très, très loin, quoi. Et Deadpool, c'est quand même le level maternel, hein, la subversion du film. Hein.
C'est un one-man show, Deadpool. Et c'est un one-man show avec des bonnes blagues. Enfin, même le 2 que tu détestes, moi, il y a des scènes qui m'ont fait marrer. Je regarde comme si c'était des portions de one-man show dans un film qui ne m'intéresse pas, quoi, tu vois. C'est comme ça, moi, que je regarde les films avec Ryan Reynolds.
Après, voilà, après, il faut...
J'ai même aimé le film qu'il a fait pour Netflix, qui est même une purge, tant en termes d'écriture que de réel, là, le truc Bodyguard, là, tu sais, avec l'affiche qui
est... Hitman
and Bodyguard. Bah, il ne l'a pas fait pour Netflix. Je ne sais plus pourquoi c'est... Non, mais voilà, le film est difficile, mais lui, il est drôle, quoi.
Le truc, c'est vraiment ça. On ne sera pas d'accord, mais...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Voilà, mais en fait, voilà, le truc, en fait, ce que je veux dire surtout par rapport à ça, c'est qu'un mec comme David Leitch, à la base, c'est un cascadeur, c'est un réal de seconde équipe. Il se retrouve, en fait, après avoir plus ou moins co-réalisé le premier John Wick, à faire quelques films d'action comme Atomic Blonde, comme Deadpool 2. Et Deadpool 2, en l'occurrence, comme sur celui-là, on lui demande en fait d'avoir de l'humour et d'arriver à filmer l'humour, on va dire. Il faut savoir qu'un des réals pressentis sur Hobbs & Shaw, moi, je comprends quand je vois le résultat final pourquoi il ne l'a pas fait, c'est Shane Black. Et Shane Black, je pense qu'il a dit, je ne peux pas faire ça, en fait. C'est un film de studio.
Mais c'est ce que fait comprendre aussi Tim Miller après ses dernières expériences.
Oui, bien sûr.
Où il en arrive à te dire, mais en réalité, il faut arrêter de blâmer le réal. Le réal, il a 15 mecs autour qui lui disent quoi faire. C'est soit tu acceptes de baisser ton front et de faire ce que les marketeurs te disent.
Ceci étant dit, l'humour en soi, en fait, je veux dire, quand tu regardes, par exemple, il y a cette scène. Parce que pour moi, en fait, il y a la scène dont tu parles dans le couloir, ou les scènes d'humour dans le film, moi encore une fois, je veux dire, je suis censé être client de ce genre de truc. Et là, le problème, indépendamment du fait que ce soit fake, c'est que c'est exactement comme les scènes d'action. À chaque fois que, en fait, par exemple, tu as des scènes où quand il s'appelle Idris Elba va mettre un nion dans la gueule de The Rock ou de Jason Statham, et en fait, tu es dans Kung Fu Panda. C'est-à-dire, en fait, le mec, il se prend un coup dans la gueule, il fait un ralenti, il fait une grimace.
T'as bien résumé le truc. Et en fait, c'est du film d'animation pour gosses, en fait.
Et le truc avec l'humour, c'est que, par exemple, t'as des mises en place de choses qui, en fait, au final, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que l'humour, ce n'est pas juste on fait une blague sur le moment, elle est censée être drôle, on passe à la suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on construit quand même un minimum le truc. Je vais pas prétendre que tous les buddy movies font ça automatiquement. Je veux dire, on a des chiés, des merdes dans les buddy movies. Mais, en fait, dans celui-là, par exemple, je me rappelle que tu as une... Je prends une scène, en fait, qui est une scène à la Jack Reacher, on va dire. C'est-à-dire que Jack Reacher, il arrive sur le film avec Tom Cruise, qui est adapté de roman, où Steven Seagal, il fait beaucoup moins ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une scène où, en gros, Tom Cruise dit « Je vais vous défoncer, cherchez pas, en fait. Pourquoi vous cherchez vous, là, vous pouvez sortir de la bagarre. Donc sortez de la bagarre, parce que sinon, moi, je vais vous éclater et j'ai beau pas vous donner cette impression-là, c'est ce qui va se passer. » Et le payoff, ce qui est payant, en fait, c'est qu'il le fait vraiment. C'est-à-dire qu'il les défonce vraiment. Et du coup, tu vois toute la scène. Et c'est pour ça que les scènes, elles sont jouissives. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, en fait, de l'action et en même temps, l'humour, en fait, qui dégage de cette idée que les mecs en face sont incrédules, quoi.
Mais c'est le dernier à faire ça.
Et là, t'as une scène similaire, en fait, où, en gros, t'as The Rock et Jason Statham qui se font torturer. Et ils disent, mais attendez, on va s'en sortir, je vais m'occuper de lui, je vais lui péter la gueule. Et il fait, non, c'est moi qui vais lui prendre la gueule. Et t'as pas une seconde un reaction shot sur le type en question qui est en flippé, qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont là, ces deux-là, ils vont pas m'avoir. Et non seulement t'as pas ça, mais en plus, le type dont on t'a parlé pendant 3 minutes, et tu te dis, bon, bah, il va s'en prendre une dans la gueule, tu vois. En fait, tu le vois quasiment pas parce qu'en fait, il s'en prend une comme tous les autres. Donc le truc, c'est qu'au final, il y a tous ces... Alors ça, c'est un exemple spécifique que je cite, mais t'en as tellement dans le film, en fait, des passages
mais
comme
parce
ça.
Parce que là, on est au-delà, enfin, si tu veux, à la limite, avec tous les défauts que ça peut avoir, un truc de bourrin qui prétend pas l'être, mais qui est quand même un truc de teubé, comme on peut aimer de temps en temps, c'est plus un Equalizer qui est pas sur le même type de budget que ce film-là. T'as un petit Equalizer et tu vas te marrer avec la scène où il regarde tout le monde, il dit je vais les niquer, mais quand il les nique, putain, c'est ça. C'est quand même violent, tu vois. C'est le but d'un film d'action, c'est une chorégraphie de la violence. Là, comme tu dis, moi, on peut pas résumer mieux Hobbs & Shaw pour moi que de dire c'est le kung-fu panda du film d'action, parce que c'est tout est faux. Tout est absolument faux. Il n'a aucun impact. Toute action n'a pas d'impact. Elle ne te fait pas mal, elle ne fait jamais mal au personnage, ça sert à rien. T'es donc du édulcoré à 100%.
Mais est-ce que tu pourrais, alors attends, justement, en partant de ce principe-là, est-ce qu'on pourrait dire que ce film, qui est censé être un spin-off d'une franchise qui existe déjà, etc., en fait, souffre en fait d'une problématique où tous les films ne devraient pas être pensés comme ça, qui est cette problématique du « on verra la prochaine fois ». C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux, ce truc où on n'arrive pas à terme en fait, de créer quelque chose, en fait, c'est symptomatique du moment dans le film où on te présente un méchant qu'on ne voit pas, qui est censé être un espèce de conspirationniste qui veut faire évoluer l'humanité à travers...
Le bad guy que tu ne vois jamais, d'accord.
Le bad guy que tu ne vois jamais, qui était à la base peut-être prévu pour être Keanu Reeves.
D'accord.
Et en gros, qui finalement ils se sont dit bon, on n'a pas de contrat avec quelqu'un, donc en fait on verra dans le prochain. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est suffisant pour te dire ça en fait quand on arrive au ce qui est techniquement le 9e film de la franchise en fait en vrai, tu vois. Donc est-ce que en fait on doit avoir une formule à la Avengers, à la Marvel,
oui,
en fait, mais... on passe d'un film à l'autre voilà, en fait sans
puis,
enjeu,
oui,
sans.
Mais ça,
sans...
Tu... ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que ça relève la question de la construction. La construction d'un univers. En fait, Fast and Furious-là, qui n'est pas un Fast and Furious, qui est un Hobbs & Shaw, il a la même vocation que La Momie avec Tom Cruise. Et la même nullité à tout niveau que La Momie. C'est-à-dire que maintenant... Mais moi, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je n'arrive pas à en parler plus que ça, parce que c'est tellement irregardable pour moi, ça ne m'intéresse même pas. Et je n'ai pas de théorie dessus. Mais quand tu regardes La Momie, le film ne te parle pas de ce qu'il est censé te raconter. Il passe son temps à te dire... Regardez l'univers que je vous prépare. Et celui-là, ça, c'est cette même logique-là. Tout est pensé pour te faire dire ça ne va pas se terminer, on va continuer à faire des trucs. Et en fait, au détriment de te raconter. Et c'est comme si on disait on s'en fout de ce qu'on raconte. L'important,
c'est
que. Voilà, c'est où on arrivera à un moment donné. L'important, c'est que t'es venu le voir, donc t'inquiète. Il y en aura un autre, on te prépare déjà à aller voir la suite. L'important, c'est, regarde, je te fais le clin d'œil à tel personnage de la saga, je te fais venir un nouveau personnage. Hey, c'est un tease, peut-être que celui-là ferait pas... Tu vois, donc c'est, on est dans le syndrome de la franchise, en fait, c'est tout. On est dans le syndrome
mais tel qu'elle se pratique aujourd'hui.
Voilà, mais on confond la création d'univers avec la création de franchise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mecs qui créaient des univers. Quand, on en revient toujours là, hein, mais quand tu regardes le Mad Max... À l'intérieur, dans Fury Road, on te crée un univers. On te tisse des passerelles, mais on te raconte une histoire et on ne te fait pas des clins d'œil. Là, si tu veux, c'est la franchise qui prime sur,
non, et puis en
sur
plus,
ce que tu es censé raconter.
Pour reprendre Mad Max, l'exemple de Mad Max, le truc, c'est que ce que tu racontais sur le fait que finalement, le personnage le mieux traité de Hobbs & Shaw, c'est la nana, bah, en fait, et qu'on utilisait cette passerelle pour présenter ce perso, Mad Max le fait aussi, hein, dans l'absolu.
Exactement.
C'est-à-dire, et sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il ne dénigre pas les autres persos pour autant.
Exactement.
Quoi.
Voilà. Exactement. Mais surtout, enfin, je sais pas, si tu veux, ce qui est un truc qui est intéressant, c'est quand tu es dans un monde où c'est l'instantanéité qui prime, tu n'es plus dans le temps présent. Parce que l'instantanéité t'amène automatiquement à te projeter sur quel est le truc. Et puis tout va tellement vite. Et puis c'est les conséquences du binge-watching, c'est les conséquences de tout ça. Quand tu vois que des mecs, maintenant, ils ont sorti des études où les mecs, tu sais, utilisent le bouton avance 10 secondes. C'est-à-dire qu'ils regardent les séries. Donc en fait, c'est plus la série qui t'intéresse. C'est simplement de dire, je l'ai vu. Tu vois, je l'ai bouffé, je l'ai consommé. On est dans une avidité de contenu, mais pas pour le contenu lui-même, pour ce que fait le contenu par rapport à ma psyché, mon statut social et les raisons de mon existence dans le monde. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'on en est arrivé dans un stade où on pense ce qui était censé être une forme de divertissement artistique comme quelque chose qui compense un vide et qui est boulimique. Tu sais, c'est comme le mec boulimique, il a un vide dans son existence, il gonfle ça, il se dit j'ai vu, et je vais vers quelque chose qui me rassure, parce que en plus, tu vois, franchement, on le sait, hein, les gens, les petits films en marge maintenant, vu ce que coûte le siloge, vu ce que coûte tout ça, tu vas vers ce que tu connais. Donc tout ça crée des habitudes qui fait qu'au bout d'un moment, ta curiosité s'étiole complètement et tu te satisfais du même, tu vois. Et là, ce qui est important, du coup, Le teasing n'est plus l'espoir de l'histoire qu'on va te raconter, n'est plus l'espoir de l'enjeu qu'il va y avoir, n'est même plus l'espoir de la scène d'action jouissive que tu vas voir. C'est l'espoir de découvrir dans le film l'élément qui va te faire dire « Oh putain, regarde ce qu'ils font par rapport à la franchise ». C'est-à-dire que c'est la franchise en elle-même qui est sujet d'étude. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Non, mais c'est de la culture pub. C'est culture pub l'émission. C'est un jour dans le monde, des gens sont arrivés... dénigre pas l'émission, mais pour dire la publicité mérite d'être considérée. Je vais parler d'un élément marketing qui est la publicité.
Ça pouvait être analysé de manière
comme
critique.
Comme les émissions qui vont être aujourd'hui, de « je suis une émission de télé qui va parler de la télévision ». C'est-à-dire, là, je ne parle pas par rapport à tout ça et je ne le critique pas. Mais là, je dis ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, moi, je ne parle plus de films parce que ce sont des films qui te parlent de franchise. Donc, ils te parlent de package marketing. Oui, donc, ils l'assument de plus en plus. Je la vois, l'étude marketing, en permanence, à chaque scène. C'est « ah, je mets ce personnage pour ça ». Je mets personnage pour ça. Je dis cette phrase pour lui. Je fais ce clin d'œil pour ce type de spectateur. Je fais ça pour celui qui aime bien les vieux films d'action des années 80. Je fais ça. Tu vois, tout. Tu regardes ce film-là, c'est un patchwork de fantasmes conceptuels qui sont posés comme des promesses, comme une pause. Tu vois, littéralement une pause, et qui ne sont pas traités parce qu'aujourd'hui, on s'en fout de le traiter ou pas. C'est le fait d'avoir fait la promesse qui compte plus. Donc, tu vois un peu le travestissement de la façon dont on conçoit et les histoires qu'on raconte et les contenus qu'on consomme. Donc voilà, moi c'est devenu tellement aberrant que
pourtant, étrangement,
c'est la pire chose du monde que tu m'aies fait revoir ce film pour cette émission. Une deuxième fois, mais j'avais envie de me suicider.
Mais c'est ça qui est fascinant. Encore une fois, ce film ne devrait pas provoquer ça. C'est-à-dire, ça devrait être un verre d'eau, le film, à la limite, au pire. Mais là, en fait, t'as l'impression.
Oui, mais ça aurait dû être dans une époque où on tient ses promesses.
C'est pas un film qui devrait nous énerver. C'est un film où on devrait se dire, ok, on n'a pas aimé, c'est mal fait. Tu vois, mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose de pire là-dedans. C'est mal fait. Voilà, tout à fait.
C'est exactement ce que je dis. Pour moi, c'est pire, c'est parce qu'en fait, ils ne pensent pas le film, ils s'en foutent. La momie, pour moi, c'était le truc le plus flagrant du monde. On prépare un univers, on s'en fout de l'histoire qu'on raconte. Ce qui est important, c'est de mettre des pions pour dire aux gens, vous allez voir, il y a un univers. Parce que c'est comme s'il y avait. Mais tu sais, ils l'ont très bien compris en termes marketing. C'est cette notion de rétention, c'est devenu presque du langage vendeur, alors que c'est censé être un langage d'entreprise. C'est comment on va faire pour retenir le plus les gens dans notre franchise, avec notre marque, avec notre truc. Et t'as l'impression qu'une des conditions existentielles aujourd'hui, c'est d'appartenir à un univers. Ça me donne une raison d'être, ça me permet d'avoir une existence sociale. Donc on va chercher l'englobant plutôt que le réel contenu. Donc c'est ça qui est flippant.
Yann.
Oui.
Moi j'ai une question pour toi avant de terminer. Si, parce que tu sais bien, tu t'énerves sur ce film qui à la base te dit ne devrait pas nous énerver.
Mais non, j'en ai rien à foutre en plus de Hobbs & Shaw. Mais vraiment rien à foutre.
T'as maté la bande-annonce pour terminer. Est-ce que t'as maté la bande-annonce de Fast and Furious 9?
Alors, ça m'a pas marqué. Hein.
John Cena.
Petit teasing.
Il y a carrément une bande-annonce.
Je l'ai pas vu, mais je vais la regarder tout de suite.
Pas pendant l'émission, on va
regarder quand même juste après.
Parce que, en fait, le gag, j'allais t'en parler.
Ils font venir John Cena dans la.
Qui joue le frère jumeau de Vin Diesel. Frère jumeau dont on ne savait pas l'existence, en fait.
Donc, on est d'accord.
Sur les 8 films.
Dwayne Johnson.
Non.
Évidemment, il s'est foutu sur la gueule avec Vin Diesel.
Non, bien sûr. Mais le truc, c'est que. Et donc, il y a effectivement. De toute façon, maintenant, c'est une dérive. Encore une fois, c'est un spin-off qui va créer une franchise sur la base d'une franchise. Mmh. Et là, on en arrive à des trucs complètement.
C'est surréaliste.
Mais. C'est surréaliste. Moi, je rajouterais juste, en fait, le truc que je rajouterais, c'est que. Sur ce film-là, et vraiment pour marquer ça, je pense que là où je me suis senti vraiment, en fait, et toi, tu l'as pointé du doigt hors antenne, on en parlait tout à l'heure. C'est du buddy movie façon Disney, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça. En fait le minimum de l'offense.
Dit que c'est un buddy movie, mais ce n'est pas un buddy movie.
Non, parce que t'es censé avoir des gros mots, des trucs comme ça.
On te dit que c'est un film d'action, pour moi, c'est pas ça l'action. On te dit que c'est un film spectaculaire, au bout d'un moment, avoir vu 250 000 fois en VFX les mêmes bagnoles qui volent dans les airs, les mêmes camions qui s'écrasent, ce n'est plus spectaculaire. Donc pour moi, il ne coche aucune des cases qu'il prétend te vendre. Par contre, il te coche toutes les cases que tu n'as pas demandé. Moi, je vais voir Jason Statham et Vin Diesel, je ne vais pas voir une nana badass. Je vais voir Jason Statham et Vin Diesel. Non, mais
c'est même pas réussi.
J'ai aucun problème avec une nana badass. Tu vois,
non, mais c'est même pas réussi dans le film.
Au moins, quand je vais voir Atomic Blonde, aussi raté soit-il, il a fait Steven Seagal en nana. Donc moi, je suis content, je ressors, j'ai vu vraiment pour le coup une meuf badass. Quoi, tu vois. Mais on ne me donne pas ce qu'on me vend. Donc moi c'est tout. Moi je vais voir ce film-là. Je vais pas le voir pour qu'on me parle de Black Superman. Je vais pas le voir pour qu'on me montre des immeubles et des effets de malades. C'est pas ça. Moi je viens voir des corps. je viens voir des corps d'alpha male bourrins, surmusculeux, parce que c'est ça, Jason Statham et l'autre. Ils ont beau être tous dans leur délire inclusif, mais ils te mettent Vin Diesel, ils te mettent Jason Statham, c'est quand même des bovins. C'est quand même des mecs qui ont passé leur vie dans une salle de muscu et qui font des concours de bite.
Ouais, mais ils, donc, sentent, ils, fait, sentent, ils sentent quand même un peu la vanille. Hein. Ils ont toujours senti la vanille.
Mais, en même temps, tu te dis, ils sont là pour faire le concours de bite. Mais mon fils à l'école, les phrases qui sortent, elles sont plus badass que celles qui sortent dans Hobbs & Shaw. Donc là, faut, tu vois, c'est regarde, j'ai l'impression d'avoir des têtards qui sont en train de me dire, regarde comme je suis badass. Et de me dire, mais non, t'es un blaireau.
D'ailleurs,
vendez-moi ce que vous me promettez, arrêtez de me vendre le contraire de ce que vous promettez.
Un des trucs qui était une anecdote en fait, qui était ressortie à l'époque de la sortie du film, c'est que, en fait, que ce soit Statham ou The Rock, ils avaient un contrat stipulant en fait les coûts qu'ils étaient censés prendre ou pas. Ce qui fait que fondamentalement, en fait, dans ce que tu dis, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils sont en train de compter les nions qu'ils sont censés prendre par rapport à l'autre. Ouais. Ce qui fait qu'ils sont censés être sur une certaine égalité. Ouais. Et en fait, c'est marrant. C'est un peu ce que raconte le. Alors tu l'as pas vu dans le Tarantino. En fait, c'est ce que raconte le personnage d'Al Pacino au début du film quand il comprend pourquoi. Le personnage de Leonardo DiCaprio est dans une impasse en fait artistique, c'est qu'on lui dit mais on vous fait jouer le méchant, vous qui avez été une vedette en fait, en gros on vous fait jouer le méchant dans les nouvelles séries en fait, comme ça ce que le public voit psychologiquement c'est le héros de mon enfance qui se fait éclater la gueule, donc en fait ça veut dire que le nouveau héros est plus fort que le héros de mon enfance, et en fait il y a cette notion là en fait dans ce film là dans Hobbs & Shaw où effectivement ça pouvait pas fonctionner à partir du moment où les mecs comptent littéralement les points et il faut qu'ils soient à égalité.
Mais c'est ça. Mais c'est c'est un des autres travers de l'égalitarisme tendance ultra radical qui fait que tu arrives à ça, c'est-à-dire tous les personnages doivent être tous fondamentalement pareil, parce que quelque part même Idris Elba, hein, il faut qu'il y ait deux bourrins pour le taper dessus et la meuf elle est l'égalité. Donc tout se vaut. Encore une fois, c'est un film où tout, donc à partir du moment où tout se vaut, même dans les effets, même dans l'action, même dans la mise en scène, même dans tout ça, il n'y a rien qui ressort. C'est fadasse.
Je t'ai énervé. Hein.
Un peu, énervé avec ce film. Ça ne mérite vraiment pas. Ouais. Ce film-là, je l'ai vu, mais je l'avais oublié direct. Ça n'a aucun intérêt.
Attends, on va te ramener une aspiration.
Et j'en regarderai plus, c'est fini. Moi, je suis à un stade là où je ne peux plus les regarder, ces trucs-là. Je préfère aller me revoir des films sales, tu vois. Je préfère aller voir des films sales des années 80, des films indéfendables, mais au moins, un mec qui donne un coup de poing, il y a un résultat. Tu vois ce que je veux dire? Je veux voir un film d'action, ça veut dire quoi?
Il y a un hématome.
Si j'utilise une mitraillette, c'est que j'ai un mec qui se la prend dans la gueule. Si je donne un coup de poing, c'est là, on ne te montre pas. C'est-à-dire, tu sais ce que c'est en fait? C'est l'agence touristique. C'est l'agence touristique dans les années 70. L'agence touristique, on regardait.
80,
on regardait des mecs qui faisaient des blagues. Il faisait exploser 50 trucs et tout le monde était vivant.
Mais ce qui est vrai, en plus.
Moi, déjà, gamin, j'étais mort de rire, je me disais, mais c'est bidon, l'agence touristique.
Surtout qu'en plus, en fait, tu peux très bien regarder ça quand t'as 8 ans.
Mais voilà, quand t'as 8 ans, ça va quand t'as 8 ans et que t'aimes pas trop le sang. Mais je veux dire, après, bon, voilà, faut arrêter, quoi. Arrêter. Non, mais moi, j'ai aucun problème avec Hobbs & Shaw. Non. façon de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que Hobbs & Shaw. S'appellerait Black Superman ou Badass Beach chez les Samoans. Ok, tu me vends pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je vais aller voir une meuf badass ou je sais que je vais aller voir un super-héros qui. Bon, d'accord. Mais là, on me vend Jason Statham et Vin Diesel qui vont se foutre sur la gueule et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et ils ne font rien.
Ceci étant dit, moi, je trouve...
On
va s'arrêter là. Mais ceci étant dit, moi, tu vois, en fait, quand ils le faisaient dans Fast and Furious 5 et que tu avais une baston de gros viandards dans le truc, elle était à chier aussi. Hein.
Ah non, mais il n'y avait pas d'impact. Mais parce que t'es dans des gros blockbusters où on leur interdit de faire tout.
En fait,
mais
dramatiquement,
au moins...
Dramaturgiquement parlant, en termes d'action, tout ça, que ça. Mais elle y est.
Mais Dwayne Johnson... traverser 15 murs. S'il y avait déjà le quart de ça dans celui-là, je dirais ok, quoi, tu vois, à la limite. Mais il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas un vrai truc de bourrin débile. Parce que c'est complètement débile de traverser des murs. Mais au moins, ça me fait marrer. Là, ils n'ont même pas un truc de bourrin qui me fait marrer. Ils tapent des mecs. Comme tu l'as vu dans 50 milliards de films d'action moderne, il n'y a rien, il n'y a pas une idée. Il n'y a pas une idée. Après, tu vas dire, ouais, il y a du beau money shot. En fait, les idées, elles viennent de
je vais faire tourner
le buggy dans le désert pendant que l'immeuble il s'écrase derrière. Mais des trucs comme ça, t'en as vu 200 000, donc j'en ai plus rien à branler.
Ouais, puis tout le monde peut le faire maintenant.
Mais oui, voilà, et puis ouais. C'est pas, voilà, il y a pas d'idée, c'est un film qui n'a pas d'idée, qui n'a pas, qui ne raconte rien, qui n'a pas rien.
Et
rien,
ça
rien.
Fait 35 minutes qu'on en parle. Ouais, donc on va
on arrête, arrête, allez, c'est, allez. On oublie ça, ça rentre dans la poubelle de l'histoire du cinéma.
Ouais. Merci Yann. Ouais. Et c'est sur ces quelques notes bien bourrines de la bande originale de Tyler Bates qu'on se quitte. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi sur YouTube. C'est là-bas que l'émission Steroids Vidéo en version vidéo existe. Et c'est là-bas que vous pouvez la voir. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.